Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jour ordinaire, d'une époque qui ne l'était pas. La scène peut se passer dans n'importe quelle maison, n'importe quel foyer de chaque ville, village, bourg ou hameau, dans n'importe quelle ferme isolée, partout en France. Elle peut se passer dans les vignes de Provence ou dans les longues terres du Nord, dans les montagnes ou sur les rivages des mers qui bordent la forteresse Europe. Car c'est l'histoire d'un jour de ces années noires qui s'étire entre l'été glacial de juin 40 et l'été brûlant d'août 44. Ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, toute la famille est réunie dans la pièce commune. Il y a même des voisins, des amis. On vient de terminer le repas. Quelques légumes à l'eau, un peu de viande peut-être, et peut-être aussi l'une de ces pâtisseries étranges que l'on préparait en ces temps-là et que l'on faisait cuire dans le four du boulanger. Une tarte aux carottes, ou un gâteau de pommes de terre, ou une tourte de pain perdu. On a fermé les fenêtres, on a bouclé les volets obscurcis de papier bleu, on a poussé le verrou de la porte, tout le monde est tourné vers une sorte de gros meuble de bois verni dont la partie supérieure est tendue de tissu, avec un grand cadran et des boutons d'ébonite noire. C'est un poste de TSF. Il est 8h15, c'est l'heure de la radio, c'est l'heure de la BBC.
Ici Londres.
Ce soir-là, ce soir comme tant d'autres, c'est le soir du 28 août 1941. Ceux qui sont là écoutent avec d'autant plus d'attention qu'il vient de se passer une chose incroyable. À Versailles, un jeune ouvrier, Paul Colette, a osé tirer plusieurs coups de revolver contre Pierre Laval et Marcel Déa qui passaient en revue un contingent de la toute nouvelle LVF, ces Français qui vont partir se battre sur le front russe, aux côtés de l'Allemagne nazie.
Nous avançons sous le porche, nous nous précipitons, il y a beaucoup de foule, je tâche d'avancer avec mon micro.
Monsieur un attentat. Il y aura un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur l'aval là. Doucement, on vient de tirer sur l'aval, enregistré.
Si l'on a écouté le reportage de l'attentat contre Laval sur Radio Paris, c'est sur la BBC, en revanche, que l'on attend les commentaires, les explications. Une attente qui ne sera pas déçue. Voici une voix de Londres qui parle de l'événement.
Tu es venu, paraît-il, de Normandie, du Calvados. C'est un pays où les hommes sont calmes. C'était la première fois depuis bien des siècles qu'ils avaient connu l'occupation durable de l'étranger. Tu as appris que tout ce qui te restait de force, que tout ce qui pouvait te sauver, on le donnait à l'ennemi. Que même une légion allait combattre, aux accents de la Marseillaise, aux côtés de cet ennemi qui vivait sur ton champ. Alors tu as fait comme tant d'autres. L'acte héroïque. L'acte qui serait parfaitement inutile s'il n'était un exemple et un symbole de ton pays. Tu t'es engagé dans cette légion pour tuer l'un de ceux qui l'avaient formé. Tu n'étais pas assez simple pour croire qu'en tuant Laval, tu allais détruire le mal. Et comme tu l'as dit aux policiers qui t'ont arrêté, tu voulais tirer sur l'un d'entre eux, sur l'un des collaborateurs, sur l'un de ceux qui avaient joué sur la misère de ton peuple, comme on joue sur un cheval, sur un champ de course du Cotentin. Tu savais que ce n'était pas à toi de rendre la justice, que ce n'était pas à toi de jouer le rôle de juge et d'exécuteur des hautes œuvres. Et l'on pourrait te blâmer si ton geste n'était qu'un geste de justicier. Mais il est le cri d'appel d'un pays. Il est la première sonnette d'alarme qui est agitée le peuple de France. C'est le premier coup de pioche dans la Bastille teutonne, le premier coup de feu sur les geôliers autrefois français qui la gardent. C'est ainsi que le monde l'a entendu.
Et puis, après cette lettre pleine de gravité, voici maintenant une petite chanson satirique, comme on en entendait avant-guerre, quand il y avait des chansonniers. La chanson se moque justement de ceux qui veulent aller mourir pour le roi de Prusse.
Oh,
dire mourir pour le roi de Prusse, seul uniforme des nazis. Se faire tuer par les Russes pendant Doriot est apparu.
Ces voix, celles qui parlent ou celles qui chantent, ce sont celles que depuis la défaite de 1940, la plupart des Français écoutent sur 1500 ou 373 mètres, malgré le fading, malgré le brouillage allemand, malgré les interdictions. Ces voix de la liberté qui percent les murailles de la forteresse Europe, qui sont-elles? Pourquoi parlent-elles? Que disent-elles? C'est leur histoire, l'histoire de la section française de la BBC, que je vais vous raconter tout au long de cette semaine.
Ici Londres.
Ce soir du 28 août 1941, bien loin du poste de TSF autour duquel sont rassemblés des millions de familles en France, une douzaine d'hommes s'affairent dans un grand immeuble de Londres, à quelques rues de l'endroit où, paraît-il, habitait Sherlock Holmes. L'un s'appelle Jean Marin. Il est jeune, breton, et mesure près de 2 mètres. Un autre, qui a l'air d'un poète surréaliste, c'est Jean Borel, dit Brunius. Et puis, voici Pierre Lefebvre et Pierre Grimbert, alias Granville. Celui qui a l'air d'être leur chef est en train de passer un savon au plus jeune. C'est Jacques Duchesne, qui n'arrive pas à faire perdre son sourire à Frank Boer. Dans un coin, un peu à l'écart, un grand jeune homme en uniforme de lieutenant discute avec trois de ses amis. Le grand jeune homme s'appelle Maurice Schumann et ses amis sont Pierre Bourdan, qui vient de lire la lettre à Paul Colette, Jean Oberlé, qui vient de chanter l'insolente petite chanson, et Maurice Van Moppes, dit Momo, qui l'a écrite. Nous sommes à Bush House, dans le studio de la section française de la BBC. Ces hommes, ce sont les voix de la liberté, les Français qui parlent aux Français. À quelques jours près, ce soir, c'est la 400e de l'émission depuis que les Anglais, le 14 juillet 1940, ont décidé de donner deux tranches de 30 minutes, à midi et le soir, aux Français qui pensent eux aussi que la France a perdu une bataille, mais qu'elle n'a pas perdu la guerre. À vrai dire, cela faisait plus de 2 ans que la British Broadcasting Corporation, prononcée BBC ou BBC, selon votre goût, avait commencé à faire des émissions en langue française. La première, c'était au moment de Munich, oui, au moment de la rencontre de Daladier, Chamberlain et Hitler, le 27 septembre 1938.
Ici Londres. Mes chers auditeurs, voici donc un bulletin d'information en langue française. Voici premièrement l'appel que M. Roosevelt, président des États-Unis, a adressé hier au chancelier Hitler et au président Benesch, qu'il a aussi communiqué à M. Chamberlain et à M. Daladier. L'armature de la paix sur le continent européen, sinon dans le reste du monde, est en danger immédiat. Les conséquences de sa rupture sont incalculables. Si des hostilités éclatent, les vies de millions d'hommes, de femmes et d'enfants de tous les pays atteints seront très certainement détruites dans des circonstances d'indicible horreur.
Mais comme cette première émission française de la BBC, la radio anglaise ne diffusa jusqu'en 1940 que de simples bulletins d'information. Puis, quand la guerre commença à tourner mal en France, la BBC offrit de se substituer aux émetteurs français qui tombaient les uns après les autres entre les mains de l'ennemi. L'avance foudroyante des chars allemands précipita les choses. Juin 40, c'est la défaite, puis l'armistice. À Lewis, le plus puissant émetteur d'Europe est contrôlé par les nazis. À Londres, Winston Churchill autorise un certain général de Gaulle à lancer le 18 juin 40 sur les antennes de la BBC un appel qu'on ne prit même pas la peine d'enregistrer. Tous les peuples occupés ont pourtant une émission à la BBC, et même les Allemands anti-nazis et les Italiens antifascistes. La section française est confiée à Pierre Duchesne, Jean Marin et Pierre Bourdan. Elle réussit du premier coup. Ce soir du 28 août 41, elle est déjà l'émission radiophonique la plus extraordinaire de tous les temps.
Ici Londres.
Vous mes amis, mes souvenirs, si vous la voyez revenir, dites-lui que mon cœur lassé vient de rompre avec le passé. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France, France et de Navarre, mais dites-lui quand même, simplement, que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. J'avais sa préférence, j'étais son seul bonheur. Hélas, les apparences et le sort sont trompeurs. Un autre a pris ma place. Tout passe, tout casse, tout lasse. Tes grands mots, oh pourquoi? Non, dites-lui bonjour pour moi. Elle croit que j'ai beaucoup de chagrin. Aujourd'hui, non. Mais peut-être demain. Je n'ai plus d'espérance. Je remporte mon cœur par les routes de France ou bien d'ailleurs. Mais dites-lui quand même, simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi. Et voilà tout.
Je tire ma révérence, Jean Sablon.
Ici Londres.
Ce soir du 28 août 1941, les millions d'auditeurs qui écoutent l'émission Les Français parlent au français ignorent une chose inimaginable. Aucun de ceux qu'ils entendent n'avait jamais fait de radio avant de venir à Londres. Il n'y a d'ailleurs que trois journalistes parmi eux, Jean Marin, Pierre Bourdan et Maurice Schumann. Deux sont des peintres ou des dessinateurs, Jean Oberlé et Van Mopes. Il y a un poète, Brunius, et le secrétaire général de Citroën, Grimbert. Quant au jeune Boer, il préparait les beaux-arts et tapait du piano dans les boîtes de jazz. Ceux qui ont encore le plus d'expérience sont Jacques Duchesne, metteur en scène de théâtre, assistant et neveu de Copeau, et son élève, Pierre Lefebvre. Bien sûr, en juin 40, il y avait des vrais professionnels de la radio à Londres, mais ils sont repartis pour Vichy. Alors, il a fallu se débrouiller. Pour cela, malgré les apparences, l'équipe de la BBC avait plusieurs atouts dans sa manche. D'abord, ils croyaient tous avec passion à ce qu'ils faisaient. Il faut dire qu'en juin 40, il fallait beaucoup de foi et beaucoup de folie pour croire que l'Angleterre pourrait gagner la guerre un jour. Ensuite, ils étaient jeunes. S'ils sont convaincus, ils sont aussi intelligents, créatifs, pleins d'humour et de fantaisie. Enfin, ils disposaient d'un dernier atout. C'est paradoxalement qu'ils n'avaient jamais fait de radio de leur vie. En ces temps-là, la radio, qu'on appelait d'ailleurs la TSF, c'était une chose avec laquelle on ne plaisantait pas. On ne mélangeait pas les genres, on faisait de longues transitions ampoulées pour passer d'un sujet à l'autre. Derrière leur voix vernie, guindée, on imaginait les speakers avec un veston bordé et un col cassé sur une cravate gris-perle. Les hommes de la BBC, eux, avaient tombé la veste. C'était des amateurs. Ils aimaient ce qu'ils faisaient, ils aimaient ceux pour qui ils parlaient. Il savait que la vérité est encore plus forte quand elle ne porte pas une chemise empesée et même quand elle fait rire. De l'autre côté de la Manche, à Radio Paris ou à Radio Vichy, ceux qui parlaient pour le compte des nazis en étaient encore au style des conférences pour gens bien élevés.
Influence du socialisme marxiste, féminisme, éducation du corps, diagnostic et guérison des maladies sociales, pacifisme, constitution de l'Europe.
Vous venez, monsieur, de mentionner la jeunesse française. Est-ce dans l'espoir de l'atteindre que vous avez choisi de parler demain au seuil du quartier latin ?
Je crois que telle a été l'intention des organisateurs des grandes conférences des ambassadeurs, lesquels sont les auteurs de ce choix. Je les en approuve d'autant plus que Nietzsche aimait la France et souhaitait fort d'y avoir des disciples. Je vous citerai, à l'appui de ce que j'avance, ce passage d'une lettre de Nietzsche à Jacob Burckhardt. Mes ouvrages, dit-il plaisamment, sont en une certaine mesure écrits en français. Et sûrement plus faciles à traduire en français qu'en allemand.
Il nous reste, monsieur, en vous remerciant de vos indications, à vous souhaiter que vos auditeurs s'intéressent comme vous l'avez fait à l'aspect prophétique du génie de Nietzsche. Nous rappelons, mes chers auditeurs, que la conférence de monsieur Charles Le Verrier aura lieu demain jeudi 19 mars à 20h30 dans la grande salle des sociétés savantes, 8 rue d'Anton, métro Saint-Michel ou Odéon.
Par contraste avec ce style, les hommes de la section française de la BBC se souvenaient d'une station de TSF qui, dès avant la guerre, avait beaucoup de succès. Cette station s'appelait Radio Cité et elle était, ou horreur, une station commerciale. Mais les slogans publicitaires qu'elle diffusait, tout le monde les retenait. Et c'est ainsi que Maurice Van Mopes se souvint du petit refrain qui vantait la quintonine sur l'air de la Cucaracha qui devint par ses soins le slogan le plus fameux de la Deuxième Guerre mondiale.
Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Par la suite, Maurice Van Mopes inventa des dizaines d'autres petites ritournelles, comme celle-ci, inspirée par la résistance de l'Angleterre.
Du fond de Londres, un bal y est donné.
Du fond de Londres, un bal y est donné.
Hitler demande à Göring d'y aller.
Hitler demande à Göring d'y aller.
Le Pas-de-Calais est dur à traverser.
Le Pas-de-Calais est dur à traverser.
C'est difficile à Londres d'arriver.
C'est difficile à Londres d'arriver.
Quelques soldats d'abord sont envoyés.
Quelques soldats d'abord sont envoyés.
Sur ces bateaux, trois par trois enchaînés.
Sur ces bateaux, trois par trois enchaînés.
À peine partis, les blacks qui sont noyés.
À peine partis, les blacks qui sont noyés.
Du coup, de l'autre côté, à Radio Paris, on essaya d'imiter le style, mais ça n'était pas très réussi.
Quand j'avais fait quelques bêtises, étant fillette avec mes sœurs, car il y a parfois qu'on en dise que les petits garçons partent seuls, et le soir venu que ma tante a trop cassé, tâchait de savoir mécontente comment cela s'était passé. Comme muette nous restions, elle s'écriait « Faites attention !» Quand on ne dit rien, ça veut souvent dire bien des choses. Les yeux parlent bien, malgré que les lèvres soient closes. Ce n'est pas le chien qui a saccagé toutes mes roses, ni le soleil qui, ma parole, a tâté le parasol. Non, ce n'est pas le vent qui a mangé mes confitures et sur le divan a mis des taches de peinture. Parlez donc, répondez un peu, votre silence est un aveu. Quand on ne dit rien, c'est qu'on n'a pas agi très bien. Il est parfois des circonstances à la radio des dissidents où ces messieurs par leur silence ne manquent pas d'être éloquents. Quand ça va trop mal pour les rouges, ils s'étendent sur le caoutchouc. Ils ignoreront la mer rouge quand on l'extra dans les choux. Comme ils sont cousus de fil blanc, ces lourds silences accablants. rien. Ça veut souvent dire bien des choses. Ça nous prouve bien qu'on ne voit pas la vie en rose. C'est le bon moyen pour que les auditeurs supposent que le bon général de Gaulle n'a pas repris la Gaule. Non! On nous a bien eu sous le régime démocratique, mais nous marchons plus dans ces vieux bobards hébraïques. Comme ce que Weisskopf dit qu'au bon ne nous emmène plus en bateau, qu'il ne parle pas ou parle trop, c'est le même tabac.
Voilà, cela ne valait pas les joyeuses insolences de Momo, von Mopes. Et en France, en Belgique, partout où il y avait des francophones, comme on dit aujourd'hui, l'écoute de la BBC augmentait. En fait, ceux que nous avons laissés tout à l'heure en train d'écouter Londres autour de la table familiale le 28 août 41 ne font guère de différence entre les Anglais, la BBC, le général de Gaulle, les gens de là-bas. Mais les gens de là-bas savent que c'est un peu plus compliqué. Il y a d'une part le général de Gaulle, qui est le chef de la France libre. Il a droit tous les soirs à 5 minutes sur la BBC. Il utilise lui-même son temps d'antenne une ou deux fois par mois. Quand ce n'est pas le général de Gaulle, c'est Maurice Schumann. Dans tous les cas, leur tranche est annoncée de la façon suivante.
Honneur et patrie.
Les autres, qui ne sont pas tous forcément gaullistes au sens politique du terme, ce sont ceux de la section française de la BBC qui dépendent directement des Anglais. Darcy Gilly, leur responsable, aime la France plus que beaucoup de Français. Et aussi Cecilia Reeves, avec son grand chapeau et sa voix si doucement britannique.
Au moment de Bir Hakeim, quand on savait que presque toutes les troupes de la France combattante étaient entourées, tout le monde était très très inquiet, bien entendu. Tout d'un coup, mon mari a reçu le communiqué disant qu'ils ont été sauvés. Il l'a fait traduire, il a couru à l'ascenseur, il a sonné l'ascenseur qui est arrivé, il a sauté dedans sur les pieds de quelqu'un, il regarde dans les yeux de De Gaulle parce qu'ils étaient par hasard de la même taille. Il a dit, mon général, vous avez lu le communiqué. De Gaulle l'a lu, il a pris la main de mon mari dans ses deux mains, il a dit, merci monsieur, je vous remercie.
Cecilia Reeves, qui deviendra un jour Madame Gilly, c'est l'officier de liaison de la section française auprès de la BBC. Comme il y en a d'autres auprès des sections danoises, hollandaises, norvégiennes, belges. Tenez, c'est même le responsable de la section belge, Victor de Lavelay, qui a eu une idée étonnante. Il a proposé à ses compatriotes le symbole V comme signe de ralliement. V comme victoire. Il a demandé aux Belges d'écrire partout à la craie la lettre V sur les murs. Très vite, les Français ont repris l'idée.
Français, nous savons votre esprit inventif. Nous savons toutes les blagues, tous les tours que vous jouez aux Allemands et à leurs collaborateurs. Continuez. Ouvriers qui avez été obligés de travailler pour l'ennemi, parfois chez l'ennemi, pas trop de zèle, allez-y tout doux, tout doucement avec le boulot. Et vous tous qui nous écoutez, chaque fois que les gouvernants de Vichy s'enfoncent d'un pas dans la collaboration, vous pouvez... Vous devez écrire des lettres à vos chefs pour leur dire ce que vous pensez d'eux et de leurs maîtres allemands. Mais vous avez 100 moyens d'ennuyer l'occupant. Vous pouvez faire comme ce type qui a donné 10 francs à un joueur d'orgue de Barbarie pour qu'il aille jouer le même air pendant une heure sous la fenêtre d'une commandantour. Et rappelez-vous que vous êtes tous, avec les Tchèques, les Polonais, les Norvégiens, les Hollandais, les Belges, les Serbes et les Grecs, les membres d'une immense armée silencieuse, armée sans uniforme, armée de soldats inconnus, armée à qui la nuit appartient, et dont le signe de ralliement est la lettre V, V, que la Gestapo efface le soir pour mieux les retrouver le matin du Cap Nord à la mer Noire. Si la croix de Lorraine est l'emblème de la France libre, le V est le signe de la solidarité des peuples opprimés. P, c'est l'Europe contre les Allemands.
V, 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 V,
sur les murs, sur les pavés, on voit partout fleurir les V. Les Boches, ça les fait en DV. Et nous tous,
ça nous fait rêver.
B, 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 B.
Il n'est plus nécessaire de demander aux Français d'inscrire partout des V. Les V fleurissent. V au fusain.
V à la craie.
V à la peinture, plus difficile à effacer.
V entre les branches desquelles on trouve ces papillons. La France aux Français, les Boches en Bochy.
Et à Tarbes, patrie du maréchal Foch, Tarbes a vu naître le vainqueur. Tarbes ne veut pas de collaborateurs.
À Paris, un marchand de vin étale une pancarte. Vin à vendre à volonté. Où les V majuscules semblent si agressifs qu'on vient le prier de les effacer.
À Niort, les habitants sont punis. Ils sont consignés chez eux à partir de 8 heures du soir à cause du trop grand nombre de V.
Sur la Loire, les volets des maisons portent des V. Ailleurs, un vitrier a découpé au diamant un V majestueux dans le pare-brise d'une voiture de Rifort.
Nous avons vu sur un mur, quelque part en France, une affiche représentant le maréchal Pétain. L'effigie du vainqueur de Verdun, du pèlerin de Montoire, était couverte de V.
À Paris, 6200 contraventions pour des V et des croix de Lorraine sur les murs. La Gestapo oblige les concierges à effacer les inscriptions séditieuses.
Mais elles reparaissent. Dans un village de France, chez le bistrot, un paysan pose par mégarde la main sur l'épaule d'un soldat allemand. Un V orne la tunique grisaille. Le paysan avait auparavant dessiné à la craie dans sa propre main le V qu'il n'a eu qu'à imprimer sur le dos de l'ennemi.
Voilà que partout on entend ce rythme.
Oui, tu vois, quand on va voir des copains, on frappe à la porte.
On tape contre le carreau.
Au café, tu appelles le garçon en frappant ta cuillère contre ton verre.
Ou en tapant avec la monnaie sur le comptoir.
Mais écoute maintenant, voilà l'Angélus qui sonne.
Le coq se dresse et chante en V lui aussi. Et voilà le garde-champêtre. Il est défendu d'écrire des V sur les murs. Et tous les bruits de la vie peuvent être transformés en V.
Voici le facteur qui sonne à la porte.
Le chien l'accueille.
Un cycliste passe dans la rue.
On vient de raconter une bien bonne.
Les remorqueurs se croisent sur le fleuve. Les trains. En France et dans l'Europe opprimée doit crier sa volonté de résistance.
Trois brèves, une longue, V comme victoire, mais Maurice von Mopes s'aperçoit que ce rythme est celui également de la 5e symphonie de Beethoven, le thème du destin. Et bravant le sacrilège, il en fait aussi une chanson.
Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V, 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 V. Sur les murets, sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en des V les oriforts. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez. V, 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 V.
Avec cette phrase musicale, ce thème du destin, on vient de trouver ce qui est et ce qui restera comme le plus extraordinaire indicatif radiophonique de tous les temps, l'indicatif de la radio de Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ici Londres.
Thank you. les Français qui écoutent ce 28 août 1941 les commentaires de la BBC sur l'attentat de Paul Collette contre Pierre Laval n'ont pas encore une idée claire de leur destin. Quelques-uns ont choisi de collaborer avec les Allemands. Quelques-uns ont commencé une lutte secrète qu'on appelle déjà la résistance. Ils sont un peu plus nombreux maintenant que l'Allemagne vient d'attaquer l'URSS et que le Parti communiste est sorti de la tente. Mais la grande majorité ne comprend toujours pas. Là-bas, à Londres, le général de Gaulle leur dit que rien n'est perdu, c'est bien. Ici, à Vichy, le maréchal Pétain leur dit qu'il sauve ce qui peut être sauvé, c'est bien aussi. Mais qui croire ? Dans leur studio de Bush House, à Londres, les hommes qui se sont retrouvés à Londres dès juin et juillet 40 n'ont pas tant d'hésitation. Ils ne se sont pas retrouvés là par hasard. Écoutons Pierre Grimbert.
Maréchal Pétain avait demandé l'armistice le 17 juin. Et le 18 juin... des camarades et moi pensions que la situation était finie et qu'il valait mieux retrouver l'Angleterre, que nous considérions comme un pays qui ne perdait jamais les guerres. C'était un peu naïf peut-être, mais c'était notre point de vue. J'étais à ce moment-là sous-lieutenant et à Metz, au déjeuner, je parle au général pour lui annoncer notre projet de départ pour l'Angleterre et je précise au général qu'en plus, pour gagner un port français, il serait nécessaire de disposer d'une voiture et que le plus simple serait de prendre sa propre voiture, qui est une voiture toute neuve, une Hotchkiss qui est superbe. Le général me répond, écoutez, soyez sérieux, vous n'avez pas à partir, vous devez rester, vous êtes mobilisé, sinon vous êtes déserteur. Je n'insiste pas. La journée se passe, avec mes camarades, nous concertons pour préparer des ordres de mission que nous rédigeons, que je signe, avec tous les cachets authentificateurs pour tromper les gendarmes qui pourraient nous arrêter. Et le soir, tout était prêt, notre barre d'armes, nous avons repéré la voiture, mis de l'essence suffisante pour partir sur une longue route. Et au dîner, après le dîner, je dis au général, mon général, maintenant je m'en vais, je pars pour l'Angleterre, je ne sais pas quand nous reverrons. Le général me dit, bonne nuit, faites de bons rêves, et à demain. Je dis, mon général, sûrement pas. Nous sommes partis très calmement et quelques heures après, nous préparions pour prendre cette voiture mon camarade Pierre Lefebvre et un autre camarade, Bramy, qui était à l'époque deuxième classe, et moi-même sous-lieutenant, qui était installé dans le fond de la voiture pour partir sur la route, vers l'aventure. Et nous avons franchi une dizaine de barrages, le cœur battant, bien entendu, mais sans incident. Nous sommes arrivés ensuite à Saint-Jean-de-Bayonne, où nous avons appris que l'armée polonaise s'embarquait pour l'Angleterre, mais à Saint-Jean-de-Luz. Et nous sommes partis avec des éléments polonais sur un bateau anglais à travers l'Atlantique. Et au bout de 4 jours, 5 jours, nous sommes arrivés en Angleterre, Liverpool.
Bien sûr, Pierre Grimbert a raison. L'Angleterre finit toujours les guerres. Bien sûr, depuis le 21 juin 1941, l'URSS est en guerre contre l'Allemagne. Mais pendant plus d'un an, l'Angleterre est restée seule contre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Pendant un an, on s'est battu en Libye et en Cyrénaïque. Mais, comme le dit Jean Marin, il y avait surtout deux fronts. Le front des airs contre Göring et le front des ondes contre Goebbels.
Évidemment, cette guerre est une guerre très singulière. Et en ce qui concernait notre action, il est bien certain que les premières escarmouches et les premières offensives avaient été des escarmouches et des offensives allemande, c'est-à-dire que la guerre des ondes, dans une large mesure, avait été, sinon inventée, du moins mise au point, et avec une grande efficacité, par les services de Goebbels et par Goebbels lui-même. Par conséquent, l'importance en face de ce phénomène de la force et de l'organisation de l'ennemi, il y avait la BBC. On ne se battait pas beaucoup sur terre, enfin on continuait de se battre sur terre, on se battait beaucoup sur la mer, on se battait beaucoup dans les airs, et il est bien certain qu'on peut considérer que la bataille aérienne de Grande-Bretagne, qui a été en quelque sorte le Verdun de cette guerre-ci, c'est-à-dire le moment à partir duquel l'ennemi a été peut-être invisiblement mais profondément touché, ou tenu en tout cas en échec, s'accompagnait d'une autre bataille, sans doute moins difficile et moins périlleuse pour ceux qui la conduisaient, mais qui avait une importance réelle dans l'ensemble des moyens mis en œuvre par les belligérants et notamment par le camp allié, c'est-à-dire les Britanniques, le général de Gaulle et la France libre, les Hollandais, les Belges, les Norvégiens, les Polonais, les Tchèques, etc. Et c'était l'action de la BBC. À ce moment-là, on a pu dire, en effet, que les émetteurs de la BBC valaient des corps d'armée. Et il est bien sûr que c'est grâce à cet effort technique d'abord, et ensuite moral et culturel, intellectuel, que le camp allié a manifesté dans ces mois-là, il allait continuer de le faire, mais surtout dans ces mois-là, une très grande et peut-être très décisive activité.
Dans cette bataille, qui est à tous les sens du mot la bataille d'Angleterre, on ne se trompe pas d'adversaire. En France, la propagande allemande se déchaîne contre la BBC avec une légèreté pachydermique.
Et maintenant, voici la phrase que Radio Paris vous propose ce soir. L'Angleterre impie, ce bourreau fatal de tout ce que la France eut de divin, tua avec Marie Stuart la grâce, comme elle avait tué l'inspiration avec Jeanne d'Arc, comme elle tua en Napoléon le génie. Qui a poussé, mes chers auditeurs, ce magnifique cri d'indignation? Paul Féval? Victor Hugo? Alexandre Dumas? Michelet? À vous de deviner. Hâtez-vous d'envoyer votre solution à Pierre Trégor, 118 Champs-Élysées, Paris 8e.
À cause même de ces attaques en Angleterre, à la BBC, malgré le blitz, on a confiance. Au début, les membres de la section française ne savaient même pas si on les écoutait. Van Moppes avait bien essayé de les encourager en faisant paraître dans un journal en octobre 40 un dessin prophétique. On y voyait la grande place d'un village de France, une place absolument déserte, et la légende disait « c'est l'heure de la BBC ». Mais si l'on n'en était pas encore là, il y avait cependant quelques preuves que quelque chose bougeait là-bas, de l'autre côté de la mer. Des lettres commençaient à arriver de France via l'Espagne, des hommes aussi venaient rejoindre la France libre et le général de Gaulle. Tous disaient aux gens de la BBC « on vous écoute ». Et puis un jour, le maréchal Pétain lui-même a parlé des voix perfides qui venaient de l'étranger. C'était en quelque sorte la reconnaissance officielle. Cette fois, les hommes de la BBC avaient compris qu'ils étaient bien sur le front des ondes. Témoignage de Maurice Schumann.
Nous étions le front, il n'y avait pas d'autre front. Londres, c'était le front. On était bombardés, un membre de l'équipe française de la BBC a été tué, Pierre Bourdin a été blessé, nous montions, nous prenions notre tour de garde sur le toit, et nous avions le sentiment de participer au péril et à la guerre. Et alors nous nous sentions qualifiés pour parler. Et je dois vous dire que personnellement, entre la fin des bombardements, c'est-à-dire juin 41 approximativement, et mon départ pour la France, c'est-à-dire mai 44, pendant ces trois années-là, j'ai eu un complexe d'infériorité, parce que, ayant choisi l'enrôlement, je n'étais plus, ou je n'étais pas, à la pointe du danger, il s'en fallait beaucoup. Alors à ce moment-là, je me suis mis au service de la résistance intérieure, les liens étaient établis, les hommes du va-et-vient étaient extrêmement nombreux, et l'émission s'efforçait d'être une réponse à l'attente d'un Jean Moulin, d'un Pierre Brossolette.
Dans l'ambiance, Alix Combel et le jazz de Paris.
Ici
les hommes de l'équipe française de la BBC, ce 28 août 1941, ceux qui tiennent le front des ondes, commencent à respirer malgré la situation critique en Libye, malgré l'avance allemande en Russie. C'est que le front des ondes, c'est aussi le front des airs, le front de Londres. Pendant des mois, des bombardiers allemands, le jour d'abord, la nuit ensuite, ont déversé des milliers de tonnes de bombes sur l'Angleterre. À plusieurs reprises, la BBC a été touchée. Pierre Bourdan a été blessé. Il y a eu des morts. La discothèque classique a été réduite en miettes. Frank Boer se souvient que les Anglais ont conservé leur calme.
C'était avant d'être à Bush House. Il y a eu une réunion, un meeting de planning du programme. Et puis, il y avait l'alerte, bien entendu. Et puis, il y a eu une bombe qui est tombée, mais alors vraiment tout près. Et tout le monde a plongé sous la table. On s'est tous retrouvés sous la table, puis tout à coup, enfin, l'alerte en passé, on est sorti de ça et on a vu Darcy Gilly, qui lui était resté debout, puis qui nous a regardé d'un air honteux, qui nous a dit excusez-moi, parce que lui, s'était pas mis sous la table. Mais il l'avait pas, ça lui était pas venu à l'idée.
Le calme des Anglais stupéfie et rassure les Français de la BBC à Londres. Et puis, ils ne se sentent pas seuls. S'ils admirent les Anglais les soutiennent. Le 21 octobre 1940, Winston Churchill, en français, leur a adressé l'un de ses plus beaux discours.
Et l'Alsace-Lorraine va une fois encore repasser sous le joug allemand. Et Nice, la Savoie et la Corse de Napoléon, seront arrachées du beau domaine de la France. Mais Herr Hitler ne songe pas seulement à voler le territoire des autres peuples et à en distraire quelques morceaux pour les lancer à son petit camarade. Je vous dis la vérité. Et il faut que vous me croyiez. Cet homme de malheur, ce monstre avortant de la haine et de la défaite n'est résolu à rien, moi, qu'à faire entièrement disparaître la nation française, qu'à broyer sa vie même et son avenir. Il se prépare par toutes sortes de moyens sournois et féroce à tarir pour toujours les sources de la culture et de l'inspiration française dans le monde. S'il est libre d'agir à sa guise, toute l'Europe ne sera plus qu'une bochie uniforme offerte à l'exploitation, au pillage et à la brutalité des gangsters nazis. Si je vous parle aussi carrément, excusez-moi. Mais ça n'est pas le moment de mâcher les mots. Ce ne sont pas les conséquences de la défaite que la France va aujourd'hui avoir à subir de la main des Allemands. Elle va parcourir toutes les étapes d'un anéantissement complet. Armée, marine, aviation, religion, loi, langage, culture, institutions, littérature, histoire, tradition, tout va être effacé par la force brutale d'une armée triomphante et par les ruses scientifiques
et basse, une police secrète impitoyable. Français, armez vos cœurs à neuf avant qu'il ne soit trop tard. Rappelez-vous de quelle façon Napoléon disait avant une de ses batailles, soldats, à Iéna, quand ces mêmes Prussiens, aujourd'hui si arrogants, vous étiez un contre trois, à Montmirail, un contre six. Je refuse de croire que l'âme de la France soit morte et que sa place parmi les grandes nations du monde puisse être perdue pour jamais.
Comme Winston Churchill, les hommes de la BBC ont gardé l'espoir. D'ailleurs, l'espoir, c'est leur métier. C'est l'exemple qu'ils ont à donner à tous ceux qui les écoutent et qui, l'émission terminée, vont commenter leurs paroles. Il est 9h ce soir du 28 août 1941. En France, on a éteint la TSF. On a tourné le bouton des stations pour qu'il ne reste aucune trace de cette soirée défendue. On ne sait pas encore que ce matin même, trois communistes ont été guillotinés sur la parodie de justice rendue par la section spéciale. On ne sait pas encore que demain matin, le lieutenant de vaisseau Comte d'Estiendorf sera fusillé avec deux de ses compagnons pour espionnage. Mais on sait qu'à Antibes, le lanceur de poids Paul Bourron a battu le record de France en présence du maréchal Pétain. Le record ne sera pourtant pas homologué et pour cause. Afin que le maréchal puisse assister à un exploit de ce genre, qui illustre bien le renouveau national, on a remplacé à la dernière minute le poids réglementaire par un poids inférieur de 2 kilos. Oui, en cette année 41, le mensonge ne s'est pas trompé de camp.
Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, par du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Tel qu'il est, il me plaît.
Tel qu'il est, il me plaît. Fréhel.